VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, doit s'entretenir demain à Sotchi avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Au Burkina Faso, 2 soldats et 4 supplétifs de l'armée ont été tués dans 2 attaques séparées. En Tunisie, le président Saïed révoque près de 60 juges dont certains seront passibles de poursuites. Coup d'envoi des festivités du jubilé de la reine Elisabeth II qui célèbre ses 70 ans de règne. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, et le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, se rendent en Russie où ils vont rencontrer le président Vladimir Poutine dans une logique d'apaisement de la guerre en Ukraine qui affecte certains secteurs alimentaires en Afrique. Le point de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Contribuer à l'accalmie de la guerre en Ukraine et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte l'Afrique. Tels sont les principaux objectifs du président sénégalais Macky Sall, qui s'est envolé ce jeudi en direction de la Russie, où il va rencontrer son homologue Vladimir Poutine ce vendredi 3 juin à Sotchi. Accompagné par le président de la Commission de l'Union africaine, Macky Sall espère convaincre son homologue russe d'apaiser les tensions avec l'Ukraine et ainsi favoriser les intérêts de l'Afrique, dont de nombreux pays dépendent fortement des céréales venant de Russie et d'Ukraine. Un temps annoncé, le déplacement du président sénégalais en Ukraine n'est plus d'actualité. L'Union africaine a cependant accepté la demande du président ukrainien d'adresser un message à l'organisation par une visioconférence dont la date et les modalités doivent être déterminées. Après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Sotchi, le président Macky Sall se rendra à Accra pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Sedina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Par ailleurs, conséquence de la guerre en Ukraine, le Tchad vient de déclarer l'urgence alimentaire en raison de la détérioration de la situation nutritionnelle, selon un décret rendu public jeudi. En 2021, selon les Nations Unies, 5,5 millions de Tchadiens, soit plus du tiers de la population, ont eu besoin d'une aide humanitaire d'urgence. La situation s'est aggravée en raison du blocus sur les céréales ukrainiennes imposé par la Russie. Au Burkina, 2 soldats et 4 supplétifs de l'armée ont été tués lors de 2 attaques commises par des djihadistes présumés dans le nord et le nord-ouest du pays. Nous faisons le point avec Rosine Munezero.
L'état-major burkinabé a affirmé aujourd'hui dans un communiqué que les assaillants ont tiré des obus sur la base de la gendarmerie et le 14e régiment interarmé de Djibo dans le nord du pays, pendant que d'autres essayaient de prendre d'assaut les boutiques. Les tirs ont causé la mort d'un militaire et de 4 supplétifs civils. 8 militaires ont été blessés, ajoute le communiqué qui précise qu'au moins 7 assaillants ont été tués. Par ailleurs, hier mercredi dans la province du Sourou, dans le nord-ouest, une unité de reconnaissance a eu un accrochage avec un groupe de terroristes à quelques kilomètres de Gomboro, au cours duquel un officier a été tué. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a fait de la question sécuritaire sa priorité, mais il fait face à une recrudescence des attaques djihadistes qui ont fait depuis mi-mars plus de 200 morts, civils et militaires confondus.
Au Mali, 2 employés de la Croix-Rouge ont été tués hier dans l'attaque de leur véhicule dans la région de Kaï, dans l'ouest, selon la Croix-Rouge malienne. Selon les premiers témoignages, cette attaque a été perpétrée par des hommes armés à moto qui ont ouvert le feu sans sommation sur l'équipe. Le chauffeur du véhicule était malien et le délégué expatrié de la Croix-Rouge néerlandaise était sénégalais. En Guinée, Tierno Mamadou Diallo, un jeune homme, a été tué par balle hier à Conakry lors de heurts entre forces de sécurité et manifestants protestant contre la hausse des prix du carburant. La justice et la police ont confirmé la mort d'un jeune de 19 ans et assuré qu'une enquête serait ouverte. En Tunisie, le président Kais Saied révoque près de 60 magistrats pour corruption et entrave à des enquêtes via un décret publié la nuit dernière. L'opposition dénonce des règlements de compte. Nanit Talani.
57 magistrats sont révoqués pour dissimulation d'affaires terroristes, corruption, collusion avec des partis politiques et perturbation du fonctionnement de la justice. Les révocations concernent aussi des magistrats soupçonnés d'avoir entravé l'enquête sur les assassinats en 2013 de deux dirigeants de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, imputés à des djihadistes. Certains juges limogés pourront faire l'objet de poursuites, dont un ancien porte-parole du pôle de lutte contre le terrorisme, un ancien directeur général des douanes et l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a quelques mois, M. Saïed a amendé la loi qui régit l'autorité de tutelle de la justice pour pouvoir limoger les magistrats. Ces révocations sont basées sur de simples soupçons sans décision judiciaire, dénonce le FSN, une coalition d'opposition dont le parti d'inspiration islamiste ENADA. C'est un règlement de compte contre les magistrats qui sont contre le coup de force de M. Saïed, ajoute Ghazi Chawashi, président d'un courant démocrate.
Au Congo-Brazzaville, des organisations de défense des droits de l'homme exigent que la lumière soit faite sur la disparition d'un ouvrier congolais de 28 ans dont la famille est sans nouvelles depuis novembre 2021. Joël Tsugani Diambote a été vu pour la dernière fois dans une cellule de la gendarmerie de Brazzaville le 11 novembre 2021. En Éthiopie, deux personnes ont été tuées, trois kidnappées hier dans la région de Gambela, dans le sud-ouest du pays, ont annoncé ce jeudi les autorités régionales, attribuant cette attaque à un groupe rebelle. Le géant du nucléaire Areva a une part de responsabilité dans l'enlèvement en 2010 de 5 Français par Al-Qaïda près de la mine d'uranium d'Arlit au Niger, a estimé un juge d'instruction antiterroriste parisien qui a inculpé la société lundi pour blessure involontaire par manque de sécurité. Le juge estime qu'Areva a ignoré les avertissements sur les défaillances du système de protection et la menace terroriste.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'homme qui a tué 4 personnes mercredi dans un hôpital de Tulsa dans l'Oklahoma visait le médecin qu'il avait opéré du dos et qu'il jugeait responsable de ses douleurs, a annoncé la police. Michael Louis était entré dans l'hôpital Saint-Francis mercredi avec une arme de poing et un fusil semi-automatique. En plus de son docteur, il a tué un autre médecin, une réceptionniste, un patient. Et en a blessé d'autres avant de se suicider, ont précisé aujourd'hui les forces de l'ordre lors d'une conférence de presse. Les États-Unis aideront l'Ukraine à surmonter l'invasion russe, a promis jeudi la nouvelle ambassadrice américaine à Kiev, Bridget Brink. Citant les priorités de Washington pour l'Ukraine, elle a évoqué une aide pour résister à l'invasion et pour garantir une Europe pacifique et stable. Sur le terrain, l'armée russe resserre son emprise. Dans l'est du pays, son objectif prioritaire, la situation la plus difficile, concerne Lugansk, l'une des deux régions du Donbass, a souligné le commandant en chef des forces ukrainiennes, Valérie Zaloujny. Excusez-moi. Jubilé de platine de la reine Elisabeth qui est apparue au balcon de Buckingham Palace à Londres pour ses 70 ans de règne, acclamée par des dizaines de milliers de personnes, la souveraine de 96 ans était accompagnée du duc de Kent, Nathalie Barge.
Pour ce jour férié, une foule dense portant des drapeaux et portraits de la reine s'est massée le long du mall qui mène au palais de Buckingham. Elisabeth II est revenue au balcon pour un survol de la Royal Air Force. Cette année, la reine a décidé que seuls les membres de la famille travaillant pour la couronne pourraient venir avec leurs enfants, soit 18 personnes, dont le prince Charles, héritier de la couronne, et son épouse Camilla, le prince William et son épouse Kate, la princesse Anne et son mari, et le plus jeune fils d'Elisabeth II, Edouard, et son épouse, le prince Harry et son épouse Meghan, installés en Californie depuis qu'ils ont pris leur distance avec la monarchie, n'ont pas été autorisés au balcon. Ils assisteront toutefois demain matin à une messe en l'honneur de la reine à la cathédrale Saint-Paul. Les félicitations pour les 70 ans de règne d'Elisabeth II ont afflué du monde entier. Même le parti républicain irlandais Sinn Féin a souligné son rôle dans le processus de paix en Irlande du Nord.
Au Yémen, le gouvernement et les rebelles houthis ont accepté de renouveler in extremis la trêve en vigueur depuis le 2 avril pour 2 mois supplémentaires, malgré des désaccords et des craintes de reprise des combats, a annoncé l'ONU aujourd'hui. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, la Mining Week se tient à Lubumbashi avec plus de 4000 participants de 45 pays. Lors de la rencontre, Louis Watoum, président de la Chambre des mines de RDC, a annoncé que le Congo a battu ses records en 2021 en produisant plus de 1,8 million de tonnes de cuivre, plus de 100 000 tonnes de cobalt et plus de 30 tonnes d'or. Le projet de construction d'un gazoduc entre le Nigeria et le Maroc pour alimenter l'Afrique de l'Ouest et l'Europe en gaz a reçu le feu vert d'Abuja. Ce mégaprojet, qui doit s'étendre sur plus de 3000 km, sera une extension d'un gazoduc acheminant le gaz du sud du Nigeria au Bénin, au Ghana et au Togo depuis 2010. Les pays producteurs de pétrole de l'OPEP Plus ont annoncé une ouverture plus importante que prévue de leurs vannes pour tenter de freiner l'envolée des prix depuis le début de la guerre en Ukraine. La production de juillet sera ajustée à la hausse de 648 000 barils par jour au lieu de 432 000 barils fixés les mois précédents, a précisé l'Alliance dans un communiqué.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Suite ce jeudi des éliminatoires de la CAN 2023.
Oui, le Mozambique défie le Rwanda et la Tunisie joue la Guinée équatoriale. Hier, le Ghana a dominé Madagascar 3-0. L'Angola s'est imposé 2-1 devant la République centrafricaine. La Libye a pris le dessus sur le Botswana 1-0. Lors de la deuxième journée, le Botswana va recevoir la Tunisie dimanche. La Libye se déplace en Guinée équatoriale lundi. Pour rappel, 48 équipes réparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.
L'Argentine remporte la finalissima à Wembley.
Oui, l'Argentine a battu l'Italie 3-0 dans la finalissima entre les deux sélections championnes d'Amérique du Sud et d'Europe grâce à des buts de Lautaro Martinez et de Paulo Dybala servis par Lionel Messi et Angel Di Maria. L'Argentine remporte pour la deuxième fois en 3 éditions ce trophée intercontinental. Après son succès en 1993 contre le Danemark, la France avait remporté la première édition en 1985 contre l'Uruguay.
Basketball, les matchs de la finale NBA débutent ce soir.
Elles mettent aux prises Golden State qui veut prolonger la dynastie Stephen Curry, Klay Thompson, démarré en 2015 et Boston en quête d'un 18e sacre record. Sous une nouvelle ère, Jason Tatum, Jaylen Brown, ces deux franchises s'affrontent dès ce soir à San Francisco pour le premier match d'une série sacrant la première à 4 victoires. Elle cumule à elle seule 23 titres de champion, dont 17 pour Boston. Les Celtics et les Warriors ne se sont affrontés qu'une seule fois en finale. C'était en 1964, au plus fort de l'hégémonie de Boston, marquée par 9 championnats remportés d'affilée. Les Celtics avaient pris le meilleur sur les Warriors, avec en toile de fond la rivalité des géants Bill Russell et Wilt Chamberlain. En cas de sacre final, les Celtics de Boston décrocheront un 18e titre pour reprendre leur distance sur les Lakers, qui les ont rejoints au sommet au palmarès en 2020.
Tennis, la première finaliste de Roland-Garros est connue chez les dames.
Il s'agit de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, lauréate surprise en 2020. Elle s'est qualifiée pour la finale après avoir balayé en demi la russe Daria Kasatkina 6-2-6-1 en 1h04 face à Kasatkina. Swiatek a enchaîné une 34e victoire d'affilée pour égaler la série de Serena Williams en 2013 à une longueur du record de Venus Williams à Linz en 2000. Meilleure série dans le siècle, la joueuse qui a fêté ses 21 ans mardi affrontera pour le titre l'inattendue italienne Martina Trevisan ou l'américaine Coco Gauff.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Les travaux de recherche de Armed Conflict Location et Event Data Project montrent que les attaques terroristes ont augmenté au Mali et au Burkina Faso, malgré la prise du pouvoir par des militaires. Écoutons les réactions des populations au Mali, recueillies par notre correspondant sur place, Mohamed Danioko.
Il y a eu 349 attaques perpétrées par les groupes djihadistes au Mali entre janvier et mai 2021, selon Armed Conflict et Event Data Project. Entre-temps, l'armée malienne a lancé une offensive dans le centre du pays. Yacouba Dramé, habitant de Mopti, note qu'il y a encore des poches de résistance.
On peut dire la situation sécuritaire dans l'ensemble, dans la région de Mopti. Il n'y a pas d'embellie, même si on voit qu'il y a une montée en puissance de l'armée, c'est-à-dire le changement de stratégie. L'armée est de plus en plus offensive. On l'a vu à Moura, on l'a vu à Ombori. Mais dans la pratique, la population ne sent pas ça sur le terrain de changement parce que les radicaux continuent d'arrêter les bus de transport. Ils continuent de placer des agents explosifs non identifiés sur les principaux axes. Donc les populations civiles souffrent en matière de déplacement. Même si dans les attaques contre les villages, ça s'est diminué un peu. Mais aussi dans le cercle de Djéné et les deux cercles qu'on appelle les cercles inondés, Yuwaru et Tenengu, l'accès à ces zones-là, c'est extrêmement difficile.
Cette situation est pareille autour de la ville de Djenné, d'après Khadija Bokoum, une blogueuse. Originaire de Djenné, venue à Bamako pour récupérer son prix du meilleur blog sur la cohésion au Mali.
Il y a deux semaines.
Il y a deux semaines, voilà, ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, on peut dire merci, ça va. C'est grâce aux forces armées qui ont venu intervenir. C'est les terroristes qui se sont introduits dans la ville. Bon, à quelques kilomètres de Djenné, quoi. Mais tu étais à Djenné, tu entends les coups.
Malgré ces difficultés et ces attaques répétées, on note une certaine amélioration dans la région de Badjangara. Malik Sissoko témoigne.
La situation sécuritaire, on peut dire, ça se stabilise. À un moment donné, les gens ne vaguaient pas rarement. Les gens vaguaient rarement à l'aide de l'occupation. Mais de nos jours, avec la montée en puissance de l'armée, que je peux confirmer parce que je suis de la région de Badjangara, on peut confirmer que les attaques s'amoindrissent de jour en jour.
Tous ces rapports interviennent au moment où les relations entre la France et le Mali sont au plus bas. Cette semaine, Antonio Guterres, patron des Nations Unies, s'est inquiété du vide laissé par le départ de la force française Barkhane qui pourrait être occupée par les djihadistes. Il y a à peine 24 heures, la mission onusienne au Mali, a aussi publié son rapport notant qu'entre le 1er janvier et le 31 mars, en 3 mois cette année, il y a eu 449 incidents sécuritaires, dont 233 au centre, 86 à Gao, dans le nord, et 37 à Menaka, dans l'est du pays. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24. Le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, accompagné du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, seront reçus demain à Sotchi en Russie par Vladimir Poutine. Le continent est durement touché par les effets de la guerre, notamment pour son approvisionnement en blé et fertilisants. Monsieur Sall va appeler à un retour de la paix et demander la délivrance de millions de tonnes de céréales, toujours bloquées au port d'Odessa. Abdourahmane Dia a joint à Douala le journaliste et analyste politique Morgan Palmer.
Je trouve qu'elle a la raison de se faire entendre. Après, se faire entendre comment? Si on est dans une approche avec beaucoup d'humilité, parce que de toutes les façons, aujourd'hui, nous bâtissons de ce conflit avec la hausse notamment de certaines denrées de première nécessité. J'ai une petite pensée pour le blé, donc est fortement dépendant tout le nord d'Afrique, le Maghreb. Et de manière plus large, le reste de l'Afrique, évidemment, c'est un conflit comme celui-là ne peut être appelé de tous nos voeux. ou plutôt la résolution de ce conflit doit être appelée des vœux de tous les Africains. Donc que l'Afrique veuille se faire entendre, je crois que c'est d'abord dans son intérêt.
C'est assez rare que l'Afrique cherche à jouer les médiateurs dans des conflits qui se passent en Europe, par exemple. Alors que répondre à ceux qui disent que cette visite du président en exercice de l'Union africaine est symbolique et qu'elle ne servira à rien?
Oui, quand on sait que l'Union africaine, c'est 60% de son budget est une participation de l'Union européenne, et qu'on sait qu'aujourd'hui, toute l'Union européenne via l'OTAN est alignée dans une position plutôt hostile à Moscou. Effectivement, on peut considérer que ce n'est pas le président d'une organisation africaine souveraine qui va parler à Moscou. C'est le président d'une organisation, l'Union africaine j'entends, dépendante de l'Union européenne, donc qui est l'une des forces belligérantes engagé au conflit, si on peut dire les choses comme ça. Donc je ne sais pas trop en ce moment ce que ça peut donner. Mais si le président de l'Union africaine qui se déplace, de la Commission africaine qui se déplace et de l'Union africaine, donc Macky Sall et Moustapha Faki, si ces deux qui se déplacent là-bas se déplacent dans l'idée de faire entendre le point de vue de l'Afrique, qui a brillé par une certaine neutralité qu'on a salué dans les opinions ici en Afrique, eh bien, il y a peut-être de fortes chances qu'il y ait un type de dialogue qui s'établisse avec Moscou, qui par certaines postures rencontre un franc soutien dans les opinions publiques africaines.
Justement, j'allais vous demander, cette posture de neutralité ou de non-alignement de plusieurs pays africains traditionnellement proches des Occidentaux, cette posture a été constatée depuis le début de ce conflit. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Est-ce que c'est une chance aussi pour l'Union africaine de trouver au moins un compromis?
On revient dans un scénario qu'on connaissait déjà. La fameuse guerre froide avec les pays non alignés, on trouvait beaucoup de pays africains. Mais derrière cette neutralité, c'est un soutien voilé à la Russie, bon, que les uns et les autres ont du mal à assumer parce qu'ils savent que ça va engendrer dans l'eau de rétorsions.
Morgan Palmer, journaliste et analyste politique à Douala, au Cameroun.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Tunisie, le président Kais Saied a révoqué 57 juges pour, selon lui, assainir le système judiciaire, éradiquer la corruption et les violations de la loi dans son pays. Pour l'opposition, c'est un règlement de compte contre ses magistrats opposés à son coup de force. Nani Talani a joint à Tunis la journaliste Nadia Dejoui.
Je pense que la révocation n'est qu'une étape du projet du président de la République pour faire passer son projet, à savoir la démocratie représentative. Aujourd'hui, ce sera les magistrats qui, dans peu de temps, peut-être que ce sera d'autres organismes.
Comment l'opposition réagit-elle face à ces dizaines de magistrats révoqués?
Aujourd'hui, l'opposition a été à l'unanime. D'ailleurs, il y a une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui où les cinq partis, à savoir El Khotob, le Front Populaire, le Courant Démocrate, El Jumhuri, le Courant Démocrate et Tekatol, voilà. Ils ont évoqué aussi un règlement de compte. De plus, ils ont annoncé un appel au boycott du référendum qui aura lieu le 25 juillet.
Que va-t-il arriver à tous ces magistrats révoqués?
On ignore pour l'instant quelles seront donc les conséquences. Ce qu'on sait du moins, un juge ne peut pas exercer sa fonction selon le décret présidentiel, qui n'a plus la possibilité de s'opposer même à cette révocation justement. Et il faudrait passer des années pour revenir juge de nouveau. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense aussi qu'on a perdu assez de temps, on aurait dû pencher sur des questions beaucoup plus essentielles, notamment le quotidien des Tunisiens, améliorer le pouvoir d'achat, qui a baissé de plus de 40%, même plus, comment faire face à une inflation qui dépasse les 7%, et sans oublier que nous avons une hausse de chômage qui avoisine les 16,1 selon les derniers chiffres de l'Institut national des statistiques tunisien.
Vous aviez mentionné l'opposition qui appelle au boycott du référendum que le président Kais Saied convoque et il y a cette révocation des magistrats. La crise politique qui existe déjà dans le pays ne risque-t-elle pas de s'intensifier?
Oui, ce sera une impasse où on ignore comment demain sera fait. Donc justement, oui, Pour l'instant, on ignore comment ça va être. Donc, je ne peux pas vous répondre par rapport à cette question. On ignore comment demain sera fait. Et puis, pour revenir à la révocation des 57 magistrats, c'est tout nouveau. Donc, on ignore comment ça va être, puisque là, pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a pas d'informations claires là-dessus.
Nadia Déjouy, journaliste à Tunis.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine et les changements de constitution aux fins de confiscation du pouvoir. Lors du sommet de Malabo le week-end dernier, l'Union africaine a certes condamné le retour en force des coups d'état militaires, mais elle a aussi dénoncé les modifications de constitution qui peuvent aboutir à des coups d'état ou des révoltes. L'Union africaine a-t-elle décidé de combattre avec le même engagement les coups d'état militaires et ce que Mahamat Faki appelle les coups d'état rampants en référence au changement constitutionnel? Comment éviter les crises politiques nées de ces changements? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
En République démocratique du Congo, plus de 4000 participants venus de 45 pays prennent part depuis hier à la grande messe annuelle du secteur des mines. Mining Week, organisée cette semaine à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Les guerres pour le contrôle des richesses minières de la RDC sont au centre des discussions de cette 17e édition. Eric Manirakiza, adjoint à Lubumbashi, Louis Vatoum, président de la Chambre des mines de la RDC.
Il y a eu des avancées parce que l'industrie minière en RDC a démontré une résilience et un courage qui a étonné plus d'un. Dans un contexte de déficit d'infrastructures et d'énergie qui existait déjà, c'est ajouté les restrictions dues à la pandémie à Covid, comme vous le savez, où il y a eu des perturbations du point de vue de la logistique d'approvisionnement des opérations minières, ainsi que la logistique d'évacuation aussi des produits marchands à travers le monde. En dépit de tout cela, la RDC a encore une fois battu tous les records réalisés à ce jour, en réalisant une production l'an dernier de plus de 1,8 million de tonnes de cuivre, plus de 100 000 tonnes de cobalt et plus de 30 tonnes d'or. Et cela ne fait que continuer à augmenter. Nous prévoyons encore une année très forte cette année. Et c'est ce qui fait que la RDC attire autant de monde. Mais c'est également le fait que dans cette approche de décarboner l'économie du monde, les métaux verts qui sont nécessaires pour ces nouvelles technologies, et donc le cuivre, le cobalt, le lithium, le coltan, le nickel, le manganèse et autres, sont en quantité et en qualité abondantes en RDC. Et donc c'est pour tout cela que la RDC attire tout ce monde qui veut faire partie de ces opportunités qui sont là et qui peuvent permettre finalement à l'économie mondiale d'être décarbonée.
Est-ce que dans ce genre de réunion, vous abordez par exemple la question de l'impact des mines sur la population, la vie de la population?
Absolument, c'est une question essentielle. Et lors de mon adresse d'introduction hier, j'ai dit à tous les participants finalement, faire du mining, ce n'est pas pour gagner de l'argent. L'argent n'est qu'un moyen pour atteindre le but ultime. Parce que le but ultime, c'est finalement créer des richesses qu'il faut partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes et assurer une justice sociale et un monde meilleur. Et cette compréhension-là est de plus en plus partagée par les miniers et de toutes les manières est encouragée aussi par le cadre réglementaire de notre pays. Comme vous le savez, il y a maintenant des paiements infranationaux qui viennent du secteur minier, notamment 0,3% du chiffre d'affaires de toutes les sociétés qui doivent aller aux communautés locales, la redevance minière qui doit aller aux communautés locales en partie aussi, mais également les cahiers de charges qui constituent finalement un partenariat, un accord qui engage les parties, où toute société minière s'engage sur la durée de vie de sa mine à entreprendre un certain nombre de projets communautaires pour créer justement cet écosystème d'activités économiques diversifiées autour des opérations minières. Tout cela dans le sens de faire profiter aux communautés locales.
C'était Louis Vatoum, président de la Chambre des mines de la RDC. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute la rédaction et à l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.